Vendredi 27 août 2021, il est 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français de Studio Kalangou, présenté par Reyla Tsoumana. Au sommaire de cette édition, les jeunes volontaires pour l'environnement ont organisé ce matin à Niamey une rencontre d'échange en prélude à la COP26, la rencontre internationale sur le climat, qui se tiendra du 1er au 12 novembre prochain au Royaume-Uni. Environ 80 cas de choléra ont été enregistrés dans la région de Niamey. Le responsable du district sanitaire Niamey 3 donne des précisions dans cette édition. Les femmes anciennes élèves du CGE2 de Dogandouchi, région de Dosso, viennent en aide aux élèves de leur ancien établissement. On en parle dans la partie magazine. Messieurs, dames, bonsoir. Dans le cadre des préparatifs de la COP26, la plateforme de la société civile sur le changement climatique a organisé ce matin une journée de réflexion et de partage d'informations sur les enjeux pour l'Afrique et le Niger dans les décisions qui seront prises à cette rencontre sur l'environnement. Suivons Sania Yuba, responsable des jeunes volontaires pour l'environnement, au micro d'Evelyne Danzumbi.
La COP26 va bel et bien se dérouler au niveau des Glasgow au Royaume-Uni du 1er au 12 novembre. Donc pour nous, c'est une opportunité pour mobiliser davantage la société civile nigérienne, pour l'informer du processus préparatoire, mais également pour discuter des enjeux et à la fin, faire des recommandations visant à ce que la justice climatique soit vraiment au cœur des discussions, pour que les intérêts aussi de l'Afrique et du Niger soient prises en compte dans les résultats qui seront obtenus lors de la COP26. Mais également, c'est pour intensifier les plaidoyers, pour que la limitation, comme on dit, l'ensemble des engagements ou des mesures qui seront prises puissent conduire l'humanité vers la limitation des températures à 1,5 degrés, comme recommandé par les scientifiques.
De la santé dans cette édition, Niamey a enregistré son premier cas de choléra le 9 août dernier au niveau de l'hôpital national. À la date d'hier, on compte 77 cas, a déclaré le médecin-chef du district sanitaire Niamey 3. Selon lui, d'ores et déjà, des mesures de prévention sont mises en œuvre par les autorités sanitaires de la région pour freiner la propagation de la maladie. Docteur Habou Abdelrahman fait le point avec Moussa Hassan.
Alors, donc, du 26 août, donc, la région de Niamey a registré 77 cas de choléra, dont 2 décès communautaires et 5 décès au niveau de ces formations sanitaires-là. Depuis la détection des premiers cas, le ministère de la Santé, à travers les structures de santé, s'est préparé et a mis en place au niveau des 5 districts sanitaires de Niamey, des centres d'accueil, des centres de traitement et de prise en charge du choléra, qui sont chargés effectivement de recevoir ces malades, de les prendre en charge médicale pour pouvoir arriver à leur guérison. En dehors de ces centres-là, il y a donc des médicaments qui ont été mis en place pour la fonctionnalité de ces centres. Autre chose, c'est qu'ils font le tour donc des quartiers et des centres de santé afin de renforcer les capacités donc des personnes ou bien donc des agents, des usagers de services. Ces sensibilisations-là sont aussi axées sur surtout donc les méthodes de prévention.
La région d'Agadez enregistre ces derniers temps une prévalence élevée de cas de COVID-19. Selon les responsables sanitaires de la commune, la majorité de ces personnes dépistées est composée de migrants. Les détails avec Rachid Harouna, médecin-chef du district sanitaire d'Agadez. Il est au micro de Moussa Maman.
Nous avons remarqué une prévalence élevée, n'est-ce pas, de cas de COVID-19 dans notre région. Cela s'explique par rapport au dépistage systématique des migrants par l'OIM. Chaque migrant, on lui fait nécessairement le test. Donc, ce qui fait que plus on teste les gens, plus on trouve des cas. Donc, ce qui explique que, franchement, par rapport aux autres régions, nous avons beaucoup de cas. Mais je tiens à préciser qu'effectivement, dans la commune, certes, il y a certains qui ont arrêté de respecter les gestes barrières. Je les exhorte à continuer à respecter ces gestes barrières et aussi venir se faire vacciner.
Autre aspect de cette édition, dans une lettre en date du 24 août 2021, le ministère du Commerce demande aux promoteurs des écoles privées de surseoir à toute augmentation ou réduction des frais de scolarité. et ce, en attendant les conclusions du comité chargé de réfléchir sur la question. Qu'en pense l'Association des promoteurs des écoles privées du Niger sur cette décision? Réponse avec Moussa Dandakoué, le président de la structure interrogée par Assoumane Achina.
Il n'y a rien de compliqué, c'est une instruction officielle. Nous la prenons comme telle et nous pensons qu'il n'y a rien de grave. La lettre dit qu'il faut geler les frais d'inscription, c'est-à-dire ne pas augmenter, ne pas diminuer. Garder les frais en vigueur déjà dans l'établissement en question jusqu'à ce que le comité finisse de travailler. Donc les parents ont intérêt à aller inscrire leurs enfants sur la base déjà des frais en vigueur dans les écoles. C'est un cadre de réflexion. Nous attendons de voir ce que ça va donner. C'est un débat, c'est une réflexion que les gens vont engager par rapport rien qu'aux frais de scolarité. Peut-être que ça peut déborder sur autre chose qui peut aider les écoles privées aussi.
À noter que le comité qui sera chargé de réfléchir sur les frais de scolarité a été installé ce matin à Niamey, nous a notifié le président de l'Association des promoteurs des écoles privées du Niger. De l'éducation, toujours dans cette édition, la Fédération des syndicats de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle région du Maradi porte plainte contre le receveur de Niger Post pour ce qu'elle a qualifié de compte d'épargne forcé. Les explications avec le coordinateur de la structure, Aminou Adam.
On nous a imposé ce compte depuis le mois d'août 2019 et c'est un compte qu'on a ouvert sans pour autant demander notre consentement. On nous a obligés à épargner une somme de 3000 francs dans les maigres pécules chaque fin du mois. Et nous avons vraiment fustigé ce comportement et c'est pour cela vraiment nous avons fait recours maintenant à la justice. Le juge nous a écoutés et il a écouté encore le receveur. Donc en nous écoutant vraiment, il a dit qu'on est dans un état de droit, en aucun cas on ne peut pas nous faire une imposition. Et le receveur vers lui, en ce qui lui concerne, l'a reconnu cela, mais malheureusement, lui, il a dit que ça, c'est un problème national. Lui, le juge, il nous a dit que nous informons nos camarades, tous ceux qui désirent vraiment fermer leur compte, vraiment qu'ils remplissent les fiches de désengagement, donc ils seront désactivés. Nous, encore, nous allons suivre ça pour voir si les camarades ont leur compte fermé ou pas.
Des propos recueillis par Mohamed Mamana, notre correspondant, a joint le receveur de la banque qui n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Pour évoluer dans le domaine artisanal, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, Abeleyara, sensibilise les artisans et leur rappelle la nécessité des renforcements de capacités périodiques. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs que s'est fixé la CEMANI, explique Alassane Abdou au micro de Seyd Abdou Inditan.
La formation des artisans fait partie des avantages du Centre des métiers d'art du Niger, CEMANI, et ce en fonction de l'évolution des différents corps de métiers. Par exemple, dans l'entendement des potiers traditionnels, ce métier est en décadence car les gens n'utilisent plus les canaris. Or, de nos jours, on constate que les jeunes mariés ornent leur demeure avec des pots de fleurs. Donc, il leur suffit juste de faire appel à leur génie créatif pour s'adapter à la demande. Et surtout que l'argile nécessaire à la fabrication d'un canari peut faire environ 5 pots de fleurs, ce qui constitue déjà un gain, car les pots de fleurs coûtent plus cher que les canaris. S'ils sont bien confectionnés, l'unité peut rapporter de 5 000 à 15 000 francs CFA. D'où la nécessité de renforcer la capacité des artisans afin qu'ils soient capables d'adapter leur métier à l'évolution des besoins.
Par ailleurs, à Gaya, dans la région de Dosso, il existe un centre de formation des personnes handicapées au métier de l'artisanat et ces derniers fabriquent divers articles. Cependant, ils rencontrent des difficultés pour les écouler, souligne Issa Moussa Tondo, le responsable du centre de formation. Il est au micro de Fadel Alou.
Nous fabriquons des chaises et des lits tissés, des ceintures en peau. Nous réparons même les ballons de foot. Tout ce qui est relatif à la confection d'objets en peau, nous les faisons ici. Nous faisons également la soudure métallique dans cet atelier. Il y a 6 apprenants. Ils sont tous des handicapés. Notre activité là nécessite la patience, bien sûr. Car deux fois, nous arrivons à gagner quelque chose et parfois c'est la galère. Tout ce qui nous blesse aujourd'hui, les clients sur lesquels nous comptons avoir la clientèle, ils quittent ici pour aller jusqu'à Niamey, acheter les mêmes produits. Et quand ces produits se détériorent, ils les ramènent chez nous pour réparation. Il y a parfois des commandes aussi qui nous sont adressées. Mais après confection, les demandeurs ne reviennent pas. Si l'handicapé arrive à trouver un appui, comment l'handicapé va les mendier?
Hors de nos frontières, l'ancien premier ministre du Mali, Soumaïlou Boubaï Maïga, ainsi qu'une ancienne ministre des Finances et de l'Économie sont inculpés et placés sous mandat de dépôt hier par la Cour suprême. Les motifs de ces arrestations seraient liés à l'affaire de l'achat de l'avion de commandement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, explique le politologue malien Boubacar Bokoum, joint par Mokhtar Hamadou.
Nous avons tous été surpris par cette démarche de la justice malienne qui aujourd'hui, après une sortie médiatique de Soumaïlou Boubaï Maïga pour dire que l'affaire dans laquelle il avait été interpellé à plusieurs reprises concernant notamment l'achat de l'avion et d'autres matériels militaires, qu'il avait été blanchi par rapport à cette situation. Malheureusement, on a vu aussitôt le procureur de la Cour suprême sortir pour s'exprimer sur la question. Le lendemain, on voit une arrestation. Donc, c'est inquiétant pour nous parce que la justice, quand même, doit être plus sérieuse que tout ça. Un pays déjà qui est en difficulté et qui est dans une situation d'insécurité à ce niveau et qu'on voit la justice instrumentalisée parce que simplement un premier ministre ou quelqu'un qui aurait dû être en prison qui n'a pas été inquiété à un moment donné se trouve subitement appelé et mis aux arrêts. J'avoue que c'est inquiétant.
L'athlète nigérien Ibrahim Dayabou a été éliminé ce matin à la course du 100 mètres aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 au Japon. Certes, la victoire n'a pas été au rendez-vous et qu'il n'a pas pu battre son record national et paralympique de Rio 2016, mais il quitte Tokyo avec plus d'expérience. C'est ce qu'a déclaré le président du comité paralympique du Niger, Haruna Ousmane, contacté par le studio Kalangou. Le deuxième ambassadeur du Niger à ces Jeux paralympiques, Fatih Hamidou, entre en compétition le 2 septembre prochain en lancer de poids. L'amicale des anciens élèves du CGE2 de Dogandouti, région de Dosso, qui regroupe uniquement des femmes, soutient les élèves de leurs anciens établissements à travers plusieurs activités, notamment pour l'amélioration du niveau des élèves. Madame Bakingé Zara Boubacar Goubé, présidente de cette association, donne plus de détails au micro d'Abdelaziz Danyoma.
Nous sommes redevables de cet établissement, l'accueil de CGE2, là où nous avons été formés. L'enseignement que nous avons reçu nous a servi et aujourd'hui, nous sommes en train d'injure par rapport à cette éducation, ces connaissances que nous avons acquises. Mais le constat, c'est que du jour au lendemain, nous avons constaté une certaine déliquescence par rapport au niveau d'acquisition des élèves. Nous avons vu que les notes de classe ne sont pas reluisantes et les notes d'examen sont en train de se dégrader. En témoigne ce que nous avons constaté cette année, même si ce sont des résultats qui sont d'ordre général, nous mettons l'accent sur les résultats de cet établissement-là. Donc, en tant qu'ancien élève de cet établissement, nous devrons conjuguer les efforts pour apporter notre contribution en vue d'améliorer le niveau d'acquisition des élèves.
Madame la Présidente, quel appui vous apportez au CEG2 de Dogandouti?
Cette association a été créée l'année passée et nous avons eu à réaliser beaucoup de choses. Nous sommes d'abord venus vers les responsables de l'établissement avec les parents d'élèves pour dire, nous voulons savoir ce qui constitue leurs préoccupations. Qu'est-ce qui constitue la contribution qu'ils attendent de nous? Dieu merci, nous avons pu aider dans le prétexte des élèves cette année parce que nous avons dit qu'il faut diagnostiquer. Donc les élèves ont été prétestés, les copies corrigées, la catégorisation a été faite, les groupes de besoin ont été identifiés. Ils nous ont dit qu'ils ont besoin maintenant, les enfants, nous le savons puisque nous sommes de l'éducation, il y a maintenant besoin d'accompagner ces élèves pour le renforcement de capacité. Pourquoi nous avons accepté? Parce que si nous disons que nous n'allons pas aider, c'est que les enfants qui sont issus des familles moins nantis ne pouvons pas bénéficier de cela. La question d'équité veut que tous les enfants soient enrôlés dans la question de rémunération. Parce que là, les parents, les enfants issus des parents nantis vont pouvoir prendre un professeur qui va leur faire des cours de maison, tandis que les autres seront jetés dans la nature. Mais à travers ce regroupement au niveau de l'école, nous avons constaté que tous les enfants en bénéficient.
Et d'où viennent les ressources qui vous servent d'appuyer cet établissement?
C'est en fonction de ce que nous faisons comme cotisation des membres. Volontaires, nous nous sommes réunis pour cotiser mensuellement pour avoir quelques ressources sur la base desquelles nous apportons notre appui.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 18h15, suivez le forum de la presse pour décrypter l'actualité de la semaine qui s'achève. C'est avec Michel Deji. Au revoir.